Bonjour à vous toutes et vous tous en studio aujourd'hui pour M l'été, Clotilde Say
et Emmanuel Robitaille.
Alors aujourd'hui à l'émission, Emmanuel va nous prouver bientôt, on ne pourra plus dire, c'est pas la mer à boire, il y a des dispositifs qui vont changer le monde, mes amis.
Mélissa Mercier est une druide de l'Estrie, on fait le tour de son jardin médicinal.
Attention canicule, France Remède s'adresse aux personnes âgées et sensibles à la chaleur.
Benoît Racette évoque la puissance de pression des familles en politique.
Maxime Despomerleau nous pousse à sortir.
Et on découvre une nouvelle façon de créer la convivialité en ville sur une aire commune. Bienvenue à M l'été.
Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite, et que l'avenir est devant nous, mais qu'on a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite.
Il s'appelle Karim Ouellet, bien évidemment, vous le connaissez bien, et la chanson c'est La mer à boire, et c'est pas une surprise, et c'est pas étonnant qu'on ait ouvert cette émission-là avec cette chanson, Emmanuel Robitaille.
Ben absolument pas, nous sommes très concept ici à M l'été quand même.
Parce que oui, et que ta chronique, et je rappelle d'abord que c'est une chronique de bonnes nouvelles, et tu en as des bonnes nouvelles pour nous, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont changer finalement, on va peut-être la boire un jour.
On va peut-être la boire un jour, la mer. Effectivement, aujourd'hui, je me suis penchée pour vous sur des dispositifs qui changent le monde, qui font vraiment une différence. Mm-hmm. J'ai trouvé des choses absolument exceptionnelles. J'en ai sélectionné 3, mes préférés. Commencer par, oui, un nouveau dispositif qui utilise les rayons du soleil pour rendre n'importe quelle source d'eau potable. Et quand je dis n'importe quelle source, je parle aussi d'une eau comme celle de la mer morte, c'est-à-dire extrêmement salé.
Oui, on sait qu'on flotte littéralement dessus tellement c'est salé.
C'est notre référence d'eau saline la plus salée au monde. Et on parle de rendre l'eau potable par la distillation et la distillation par la désalinisation. Enlever le sel, moi te le mettre en français, existe, ça existe depuis longtemps, simplement qu'on a combiné différentes méthodes actuellement pour l'optimiser, pour la rendre meilleure, cette méthode-là. Ouais. C'est un dispositif qui mélange de l'hydrogel, qui est un matériau, avec les rayons du soleil et qui distille l'eau d'une nouvelle façon qui fait en sorte que la vapeur d'eau qui en émane, elle est capturée dans un réservoir et est conservée à des fins de consommation. C'est des dizaines de milliers de vies qui peuvent être sauvées chaque année, considérant l'accès à l'eau dans les pays sous-développés, mm-hmm. qui est comme un luxe, on va se le dire. Là, sans mm-hmm. parler de l'accès à l'eau dans les cas de grands sinistres, par exemple. D'ailleurs, les tests sur le dispositif actuellement nous permettent aujourd'hui, où on en est là où, à l'heure où on se parle, d'assurer la quantité d'eau potable pour un désastre ou encore pour assurer la consommation d'eau d'un foyer normal. C'est quand même pas rien à suivre pour ce qui est de son utilisation, ouais, ouais. sa commercialisation, son accessibilité, mais on peut pas nier que l'idée est extrêmement bonne.
Oui, sans compter qu'il y a ceux qui en manquent et il y a ceux qui en prennent trop et ça aussi, ça risque aussi de, un petit peu de rééquilibrer peut-être la balance.
Ben, on le souhaite, et ça, mais ça, ça ouais. on a le jugement toutes les secondes, on peut faire la différence oui, dans notre utilisation d'eau, ça c'est clair. Vrai. Mais c'est en sachant qu'on peut rendre de l'eau ouais. potable dans n'importe quel puits, n'importe quelle source, c'est fantastique. Un autre dispositif qui oui. a attiré mon attention, et là ça me touche particulièrement, c'est un dispositif qui remplacerait le testage sur les animaux.
OK.
C'est un dispositif qui est gros comme une micro-puce d'ordinateur. Le plus clair encore, c'est comme une clé USB.
Je t'interromps un peu. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on pourrait éviter d'avoir à faire des tests épouvantablement douloureux, par exemple, sur les animaux, c'est ça?
C'est ce que je dis. Je le dis et je le répète. Oui. Ça remplacera le testage sur les animaux. Enfin. Et non seulement ça, mais la façon dont c'est fait, c'est ouais. fascinant. Donc, c'est gros comme une clé USB, bon, oui, le petit embout oui, qui dépasse, oui. c'est transparent, c'est conceptualisé pour imiter les organes humains et leur fonctionnement. Parce qu'on sait qu'on teste sur les animaux et ce qu'on n'est pas prêt bon, à faire subir à nos propres organes sans le moindre risque, ce avec quoi j'ai beaucoup de difficultés et avec quoi je suis en désaccord, mm-hmm. je m'affiche pleinement. Et donc, ce dispositif-là, cette petite plaque transparente, ça servirait de plateforme pour tester majoritairement des nouveaux cosmétiques et des nouveaux médicaments afin d'étudier bon, les effets des différents produits chimiques puis de l'environnement sur les tissus humains. C'est 100 millions d'animaux qui sont utilisés aux fins du testage chaque année à travers le monde. Donc, en plus du nombre faramineux que ça représente, ces tests-là sont même pas garants des résultats similaires chez l'homme. Les similarités entre les organes des animaux et des humains diffèrent encore trop. D'ailleurs, c'est 90% des médicaments qui fonctionnent sur les animaux qui échouent une fois en testage sur l'homme. Donc, j'ai pris une pause, elle était
oui,
volontaire.
Non, hein? mais oui, parce que justement, je réalisais, quoi. Je me suis dit, ben voyons donc.
Donc, non seulement c'est très encourageant pour nos amis les animaux, mais c'est aussi encourageant pour nous, considérant que parfois la recherche des médicaments, elle est de longue haleine.
Oui.
On attend longtemps. Ça serait le fun qu'on n'attende pas un testage ces souris 2 ans pour avoir ensuite 90% de chances que ça ne marche pas sur nous autres. Mm-hmm. Moi, te le dire de même. hein? C'est ce qui se passe présentement, littéralement. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur le dispositif, il y a un réseau où on peut injecter du sang. Donc, imaginez-vous un petit réseau cylindrique, un peu comme des veinures là, mm-hmm. à l'intérieur du dispositif. Non seulement il y a des cellules d'organes, mais on peut insérer du sang à l'intérieur de ce petit réseau-là, ces petites fissures-là, et aussi créer donc des tests qui sont personnalisés pour de la médecine individuelle. Donc, qu'est-ce que tel ou tel médicament a comme effet sur toi, personnellement, Clotilde?
Mm-hmm.
Donc, non seulement choisir le bon médicament, mais le bon dosage aussi.
Oui.
C'est extrêmement intéressant et ça servira également à la culture cellulaire. Donc, un dispositif que moi, j'ai très, très, très hâte de voir sur le marché actuellement. Et finalement, roulement de tambour et non le moindre, un dispositif détecteur d'arachides dans la nourriture. Écoutez bien ça. Tu prends n'importe quel morceau de nourriture, un bout de gâteau, un bout de muffin, mm-hmm. n'importe quoi, et tu le mets à l'intérieur d'un cylindre noir en plastique, tout à fait banal en apparence, gros comme un doigt, que tu insères dans un triangle, gros comme un cellulaire.
Mm-hmm.
C'est le dispositif NIMA, N-I-M-A, et ça détecte littéralement la présence de noix et d'arachides dans la nourriture. Ça peut sauver des vies, c'est très mm-hmm. pratique, ça se met dans une poche, ça se traîne partout, et tu reçois ton résultat en quelques minutes à peine, et tu peux même le recevoir sur ton cellulaire à l'aide d'une application. C'est disponible au coût de 289 $. Est-ce que c'est efficace? Eh bien, ils ont reçu les NIMA Sensors, des fonds de l'Institut national de la santé des États-Unis et reconnus par le Centre de recherche en allergie, nommé comme leader dans leur domaine. Ouais. Donc, pour ce qui concerne leur crédibilité, on y est. Et j'ai été lire des commentaires sur les utilisateurs actuels du NIMA et je te dirais que c'est unanime. 4 et 5 étoiles pour tous les utilisateurs. Les gens ne s'en passeraient plus. Rendez-vous sur le nimasensor.com, NIMASENSOR.com pour le commander. Et quelle ne fut pas ma surprise en voulant simuler une commande et voir si, moi, résidente québécoise, je pouvais avoir également accès à ce dispositif fabuleux. Je me suis rendu compte que je pouvais également commander le dispositif détecteur de gluten NIMA, qui sont côte à côte sur leur page Internet. Et oui, c'est disponible au Canada.
Voulez-vous nous redire le nom du site?
NIMASensor.com. Rendez-vous-y immédiatement, c'est disponible.
Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeballs, he one holy bone. He got head down to his knees. He's got to be a joker, he just do what he please. Ooh. He wear no shoe shine. Football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, and you know me, one thing I can tell you is you got to be free, come together right now, over me. Production. He got Walrus Gumbel, he got Ono Cyborg, he won Spinal Cracker, he got feet down below and knees. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together right now, over me.
Nouveauté musicale, ou si on peut dire ainsi, une relecture de cette pièce des Beatles, Come Together, c'était par la formation Scary Pockets.
Incroyable chanson que je n'ai jamais été capable d'apprendre les paroles. Sachez.
C'est vrai?
Ah non. Vous les lirez, là, vous m'en redonnerez des nouvelles.
Je ne sais pas sur quoi ils étaient, peut-être sur des plantes médicinales.
Mais peut-être.
Allez savoir. C'est de cela dont nous allons parler. Je retrouve pour la deuxième fois à cette émission-là Mélissa Mercier. Mélissa Mercier, vous êtes fondatrice et herboriste propriétaire d'Herb Offered. Comment allez-vous? Bonjour.
Bonjour, Mathilde, ça va bien et vous?
Oui, très bien. Je vous remercie, Mélissa. Mélissa, je voulais que l'on axe cette deuxième entrevue aujourd'hui sur la puissance des plantes dans le domaine médical, parce que c'est l'un de vos dadas. Est-ce que ce n'est même pas totalement à l'origine de la création d'Herb Offered?
Oui, exactement. Herb Offered a été créé dans l'idée de prendre soin des gens le plus naturellement possible et que les gens puissent le faire facilement à la maison en prévention.
Ah, c'est ça, parce que ça, c'était l'une de mes questions. Est-ce qu'on parle de la médecine par les plantes? Est-ce qu'on parle de prévention ou de guérison? Ou les deux?
Les deux. Par contre, nous, ce qu'on a préconisé, c'est vraiment l'approche préventive, que les gens aient conscience, justement, de la puissance des plantes, comment qu'ils puissent les utiliser au quotidien pour la santé. Par contre, effectivement, le côté curatif, on ne remplace pas un médecin. Il faut toujours avoir un diagnostic d'un médecin. Et par contre, il y a des herboristes accrédités avec la guilde des herboristes là, qui peuvent donner conseil effectivement sur le côté curatif des plantes et même après ça, pouvoir le faire à la maison soi-même.
D'accord. Donc, c'est vraiment toute la différence hein, entre vous et un herboriste médicinal curatif. J'ai bien compris. Vous, c'est de la prévention que vous faites.
Exactement,
Emmanuel.
Oui.
Mais justement, on parle d'herboristes. Si je me demandais justement qui était chez vous des herboristes, des naturopathes, vous avez personnellement étudié en permaculture. C'est quoi la permaculture, tout d'abord?
Oui, la permaculture, c'est la contraction de deux mots, qui est la culture permanente.
Okay.
C'est vraiment d'avoir une pérennité du sol et des plantes. Mm. Fait que c'est de pouvoir avoir en tout temps... Mais en tout temps, ici, on s'entend que c'est l'été.
Oui.
Oui. À l'origine, c'était en Australie, fait que c'est plus en tout temps. Mais c'est vraiment c'est un design qui s'inspire de l'écologie naturelle. C'est vraiment basé sur l'observation de l'environnement. Ce sont des méthodes qu'on va utiliser qui sont respectueuses de l'environnement, des êtres vivants. Fait que c'est et de moins manier le sol pour que le sol reste le plus vivant possible, de venir nourrir le sol pour qu'il fasse son cycle naturel au lieu de mettre des engrais chimiques, des pesticides, qu'on ait moins d'impact, que le sol se fasse naturellement, qu'on s'enlève un peu de notre ego d'humain de dire qu'il faut absolument...
intervenir.
Exactement, oui.
Mais on parle... Non, on n'est pas en Australie, on parle de cycle ici, on a quatre saisons, mais on a quand même des vivaces au Québec, là.
Oui, exactement. C'est ceux-là, nous, qui sont nos bébés, si on veut. C'est qu'on s'est spécialisé dans les plantes vivaces, que ce soit justement des vivaces médicinales, des vivaces dans les comestibles, dans les légumes vivaces, qui sont vraiment une partie très intéressante, surtout au Québec. Et c'est ça, plantes médicinales et tout.
Alors, vous proposez au sein de Herb Offered plusieurs jardins qu'on peut d'ailleurs visiter, et notamment un jardin thérapeutique. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, un jardin thérapeutique de base, voyez-vous, vraiment de base, là, pour quelqu'un complètement néophyte qui aurait envie de se créer quelque chose sur un petit bout de terrain. D'abord, est-ce que ça prend un grand bout de terrain? Et qu'est-ce que ça prendrait comme herbe, comme plante vivace d'après vous?
Tout dépendamment vraiment des besoins de chaque personne. On va y aller avec les couleurs de fleurs. Alors, admettons, si on veut un jardin plus pour calmer les soucis, les préoccupations, aller plus vers l'ouverture d'esprit, la sérénité, on va plus axer vers le bleu. Fait qu'on va mettre dans notre aménagement plus de fleurs bleues.
Ah oui.
Admettons, pour la douceur et le bonheur, on va axer plus sur le rose. Pour l'énergie, la force, le courage,
joie.
On va axer plus sur le rouge. Fait que ça, c'est vraiment, on va toucher sur une palette de couleurs, mais aussi sur une palette de plantes thérapeutiques.
Alors... Parlons-en un petit peu. Par exemple, imaginons que je suis quelqu'un qui vit avec la migraine régulièrement. C'est un souci, je ne sais plus quoi faire. J'en ai pris des médicaments, j'ai passé des scans, etc. Et ça n'a servi à rien. Hein? Imaginons une personne comme ça. Est-ce que réellement, vous dites, vous prétendez qu'il y a une plante qui pourrait régler ce problème?
C'est certain que les plantes sont un peu comme les médicaments. Il y en a qui font des personnes, il y en a qui font pas d'autres.
Oui.
Mais effectivement, la grande camomille, moi, j'étais aux prises vraiment avec des migraines assez régulièrement, et la grande camomille est mon amie.
Ah oui, hein?
Oui, c'est de prendre un bout de feuille. Moi, je le lais en plante vivace. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est une plante vivace. Moi, à chaque fois que je me promène dans les jardins, je me prends un petit bout de feuille. C'est que ça va venir ce qu'on appelle un tonique capillaire pour les petites veines. Souvent, quand on a des migraines, tout dépendamment si on n'a rien de coincé dans le cou ou quoi que ce soit, il faut vraiment voir, mais ça va venir resserrer la migraine, c'est parce qu'on va avoir juste une veine d'un côté qui va se dilater, si on veut. et qui va venir créer des migraines. Fait que la grande camomille va venir, c'est une plante qu'on appelle astringente, fait qu'elle va venir renforcer la petite veine, puis moi, je n'ai plus de migraines.
Vous allez la grignoter ou vous la faites en tisane?
Moi, je la mange directement.
Directement, c'est ça.
Oui, un petit bout est très amer. On sait qu'on a juste besoin d'un petit bout de feuille. Mais sinon, on peut la faire sécher et la prendre. Elle, c'est vraiment une plante de prévention. On va en prendre à tous les jours un petit peu. Et
C'est ça, tous les jours, par contre.
Oui, oui, ben, le plus souvent possible, disons. Là. Il y a des journées que j'en prends pas, là, mais c'est vraiment là, quand on y pense. Et quand on sait le bien qu'elle nous fait, quand on se promène
bien
à côté,
sûr.
On en prend une petite feuille, mais on peut en faire sécher aussi pour en avoir l'hiver, qu'on va prendre en tisane. Oui.
Bon, il y a les maladies du siècle, le cancer, l'Alzheimer, on en parle beaucoup, Parkinson, tout ça. Mais je pense que peut-être au-delà de ça, il y a une autre maladie qu'on retrouve régulièrement et le nombre de gens qui prennent des médicaments pour cela, pour contrer cela, c'est la dépression. Plus ou moins importante, hein, plus ou moins profonde. On parle d'état dépressif ou de profonde déprime. Bon, on entend beaucoup parler du millepertuis.
Oui, exactement. Le millepertuis, avant de prendre vraiment un traitement avec le millepertuis, si vous prenez déjà d'autres médicaments, il faut effectivement faire affaire avec une herboriste accréditée
D'accord.
pour voir les interactions plante-médicaments. Mais moi, je l'appelle ma plante du soleil.
Ah oui?
Oui.
Mais est-ce qu'elle a un effet direct sur la sérotonine?
C'est pas une plante qui va venir...
Jouer sur les neurotransmetteurs, c'est pas ça, c'est quelque chose qui va vraiment travailler sur l'humeur de la personne, mais directement ou indirectement.
Nerveux, là, oui. Et on va le prendre, mais il faut faire attention si on prend le millepertuis, c'est que ça va être une plante qui va être, on appelle, photosensibilisante. Fait que si on en prend beaucoup, il faut faire attention à ne pas aller au soleil sans crème solaire ou faire attention parce que notre peau va réagir un peu plus. C'est pour ça que je l'appelle ma plante du soleil.
C'est vrai.
C'est vraiment, on va la prendre l'hiver, ça va nous aider. Moi, je dis ceux qui ne partent pas dans le sud l'hiver peuvent prendre le millepertuis, mais par contre, si vous changez d'idée et aller dans le sud, faites attention.
D'accord. Dites-moi, Mélissa Mercier, je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas jeter un pavé dans la mare, mais par exemple, le millepertuis, on en trouve absolument partout. Dans toutes les pharmacies, en petites gélules.
Et on en trouve partout dans la nature au Québec. On appelle une mauvaise herbe, mais quand on la reconnaît, on la voit partout.
Mais si, je suis convaincue que si vous nous donniez le choix entre la pilule et celle qu'on trouve partout au Québec, vous nous diriez, mais prenez donc celle qui pousse au Québec, quoi. À quoi ça ressemble, d'ailleurs, du millepertuis?
C'est une belle fleur jaune. Oui, c'est vraiment, on dirait un petit soleil.
C'est vrai.
Et quand on écrase le bouton de fleur entre nos doigts, ça fait une huile très, très rouge, très mauve même. On va faire une huile de millepertuis, effectivement, même pour en macération, pour les tensions nerveuses. Mmh. On va l'appliquer en huile de massage pour les tensions nerveuses. Et c'est vraiment une plante qu'une fois qu'on l'a reconnue, est facilement reconnaissable. On ne peut pas la mélanger avec une autre plante. Fait que c'est ça qu'on fait au jardin aussi, là, montrer aux gens l'identification, de bien reconnaître les plantes aussi en milieu sauvage qui peuvent être utiles.
Mélissa, merci. Je rappelle que vous êtes fondatrice et herboriste propriétaire d'Herboford et qu'on peut aller visiter vos jardins et en apprendre plus justement sur ces plantes médicinales, sur ces jardins thérapeutiques. Vous donnez aussi des ateliers. On a toutes les informations, j'imagine, en allant visiter votre site herboford.com.
Oui, exactement. Il reste 3 ateliers à la saison.
Oui.
3 ateliers réguliers. Il reste pour justement les fines herbes au jardin, les tisanes et les fleurs comestibles. Donc, on va avoir une auteure invitée aussi pour l'atelier des fleurs comestibles. Les ateliers sont 25 $ par personne. Ça dure environ 2h30. Et on a une visite guidée aussi tous les dimanches à 14h, que le coût est de 10 $ par personne.
C'est parfait. Merci beaucoup, Mélissa. On vous souhaite un bel été, puis ben merci d'être là.
Merci beaucoup à vous.
Bonne
merci
journée.
Mélissa. Au revoir.
Au revoir.
しくなった苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましくなった愛してるのよあなたを泣きたいほど愛しているの Oh, I need you パパパパパ1、2、3、4、5、6、7、8しけなた悲しい時にはいつでもこのサンバを歌うのよ忘れるために溢れる涙の調べは切なく震えるサンバの調べましけなた思い出すのよあなたをもう会えないあなたの
un petit peu d'exotisme dans nos oreilles avec la formation Pink Martini qui reprenait Mashkenada.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté qui officie en régie souvent au choix musical et vous entendez sa jolie voix de temps en temps qui nous désannonce très agréablement d'ailleurs les chansons qu'il a choisies pour nous. Je vous rappelle que vous écoutez M l'été, vous êtes sur les ondes de Canal M avec
Emmanuel Robitaille
et Clotilde Say.
Vous écoutez Aime l'été.
Emmanuel Robitaille avec vous, toujours en compagnie de Clotilde Seille pour Aime l'été en cette édition du mardi 17 juillet. À venir, France Remette nous aide à contrer la chaleur, surtout pour les personnes malades ou les personnes âgées. Benoît Racette va nous convaincre de la force de pression d'un groupe de parents.
Il fait chaud. Le fantôme, le swing, le fumier du printemps, puis mes armatures qui se logent lousses, qui abandonnent. Il fait chaud, au baisse et le chauffage du soleil qui rôtit nos peaux. On se chiffonne dans la journée, on se lance toutes comme des cinglés sous les plages de Chidiac ou de Capelet. Il fait chaud, les oiseaux sortis, je trouve ça bien trop beau. Jusqu'à ce qu'ils me réveillent le samedi matin, puis que je pète ma coche, puis je vais tirer des roches. Il fait chaud, oh, oh, c'est le festival des grands bédaines, puis des touristes dans des speedos fluo. On se met une nouvelle couche de peinture après que l'hiver nous a déteint. Il fait chaud.
Et c'est de cela dont on va parler avec France Remette. Bonjour France.
Bonjour.
Hein, avouez que c'est vous amener votre chronique sur un plateau, ça.
Ah oui, hein, parce qu'il fait chaud.
Lisa Leblanc et France Remette avec nous maintenant pour sa chronique qui concerne beaucoup ben, les personnes âgées, mais aussi les personnes, dans ce cas-là, qui peuvent être très sensibles à la chaleur. On pense aux personnes malades, par exemple. Mm-hmm. Et vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet-là, sans doute pour les aider à traverser ces périodes.
Oui, certainement. Écoutez, on s'attend à un autre épisode de canicule du 20-25 juillet. Alors, on est vraiment dedans là, présentement, ouais. Parce qu'on aura 3 jours consécutifs avec des températures qui vont aller autour de 30 degrés centigrades, avec une température ressentie autour de 38-40, parce qu'il y a un taux d'humidité qui est quand même important. Ouais. Alors, voilà, c'est la réalité. Alors, que faire
mais oui.
vis-à-vis de tout ça? Alors, écoutez, c'est ça qui est un peu alarmant. On parle de décès de plus de 70 personnes au Québec dernièrement, entre autres dans des CHSLD.
C'est triste.
Oui, alors ceux qui connaissent des gens dans les CHSLD, c'est important d'aller les voir, de vérifier, tout ça. Moi, je le fais personnellement. J'ai des gens dans mon entourage et puis on a trouvé des ventilateurs, alors on les aide. Maintenant, c'est ça, c'est la réalité. Mais que faut-il faire quand il fait trop chaud? Hein?
Et on vous écoute attentivement.
C'est ça.
On va tous en prendre un peu. J'imagine s'hydrater.
Mais je vais vous donner en résumé les recommandations de la Direction de la santé publique du Québec, qui a été reprise aussi par les Laurentides de Montréal, etc. Alors, la première règle, s'hydrater. Alors, d'abord, on recommande de boire 6 à 8 verres d'eau par jour, au moins. Pas trop non plus, mais au moins 6 à 8. Puis là, on parle de pas seulement de l'eau, ça peut être des tisanes, des thés, des limonades pas trop sucrées, des jus qui sont coupés d'eau parce qu'on veut éviter, bien sûr, les boissons trop sucrées parce que ça, c'est pas recommandé vraiment, ni l'alcool, ni le café. Mais des petits thés légers genre tisane, ça va. Ensuite, d'essayer de trouver un endroit climatisé ou frais où on peut passer au moins 2 heures dans la journée. Les gens qui sont plus mobiles, par exemple, chercher soit aller dans un centre commercial, une bibliothèque, un cinéma, un café qui est climatisé.
C'est une bonne idée d'aller faire des commissions, finalement, cette journée-là. Si on peut couper la journée avec une commission, ça aide.
Oui, exactement. Mmh. Alors, ou même, si des gens ont des maisons qui sont pas climatisées, des fois, le sous-sol est plus frais. Hein? On pense à ça aussi. Mais les gens en appartement, dans des appartements, c'est étouffant. Essayez de trouver quelqu'un, si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser, qui pourra vous accompagner, vous aider à aller dans un endroit plus frais. Maintenant, on suggère aussi une douche ou un bain frais par jour. Alors, ou se rafraîchir, si on ne peut pas, là, se rafraîchir au moins avec des serviettes d'eau mouillée, un spray en eau, dans une bouteille, là, mettre de l'eau dans une bouteille, puis mettre un petit spray sur soi régulièrement. Même, on peut le traîner avec soi, là, on peut la traîner, la petite bouteille.
Parce que là, j'imagine, dans les CHSLD, les pauvres gens, souvent, qui peuvent, qui ont à peine droit à un bain par jour en temps régulier, j'imagine que...
Oui, mais c'est pour ça que
raison. Hein, vous avez raison, puis peut-être vous-même amener comme des grandes serviettes, mouiller les serviettes pour tenir les gens au frais.
Oui, puis il existe aussi sur le marché... on peut aller voir sur Internet des bandeaux refroidissants, là, mieux connus sous le nom de cooling bandana. On les trempe 3 minutes dans l'eau, c'est tout. Et ensuite, ils restent frais pour la personne pendant au moins 4 heures, plus. Et on peut les réfrigérer. Ils n'ont même pas besoin de réfrigération, c'est ça qui est intéressant.
Ah, je ne connaissais pas ça.
Moi non plus, on trouve ça où?
J'en ai trouvé dans des boutiques spécialisées. J'en avais trouvé l'année passée à Sainte-Anne-de-Bellevue dans une boutique là, qui vend de tout. Mais on peut aller sur Internet et les commander. Ça s'appelle Cooling Bandanas.
Bon, peut-être dans certaines pharmacies, genre où on trouve de tout.
Oui, ça pourrait les pharmacies spécialisées dans les équipements de réadaptation aussi. Là, ils ont souvent ça en connexe. Porter des vêtements légers, va le répéter, et de couleur claire, pas foncée. Réduire les efforts physiques. Des fois, on voit des gens qui se forcent à aller faire des efforts physiques. Moi, je voyais un cycliste l'autre jour qui était pas si jeune que ça, qui avait l'air blanc comme un drap. C'était la canicule. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait sur son vélo? Alors, non, ça, c'est important, là, de réduire, ménager nos énergies. C'est sûr que si on est capable de se procurer un climatiseur ou un ventilateur, au moins un ventail, ça aide, ça peut aider.
Et, ouvrir les fenêtres le soir quand le soleil...
Quand c'est plus frais,
oui,
quand le soleil
ça.
Est parti.
Créer des courants d'air.
Effectivement, oui.
Et
oui.
Puis d'ailleurs, si vous en avez, vous savez, dans le sud de la France et dans les pays chauds, on vit dans le noir en été. Hein.
Mm-hmm.
Les
oui.
gens, bon, et puis là-bas, il n'y a pas de clim, mais il y a des volets aux fenêtres. C'est d'où les fameux volets.
Ah, moi, je n'ai pas ouvert mes rideaux pendant la semaine passée.
Non, c'est ça. Ben il faut, si vous avez ou si vous n'en avez pas encore, mettre des bons gros rideaux assez lourds et surtout qui ne laissent pas filtrer la lumière.
Pour éviter l'effet de serre dans la maison.
Absolument. Oui. Ça enlève au moins 8 à 9 degrés facilement. Mm-hmm. Vraiment, c'est assez incroyable.
Il y a des toiles antisolaires maintenant qui existent aussi, qui peuvent être intéressantes.
Mm-hmm.
Maintenant, l'entourage peut jouer un rôle. Je l'ai mentionné tantôt. Hein. Alors, si vous connaissez des gens qui sont plus vulnérables, par exemple, des gens qui ont des maladies chroniques, des problèmes de santé mentale, des gens qui ont tendance à dépendre de l'alcool ou même des drogues, on devrait prendre des nouvelles de ces gens-là, voir comment ils vont, comment ils s'en sortent là, avec la canicule, est-ce qu'ils sont capables de sortir, puis les encourager à le faire aussi.
Mais en tant que proche ou même en tant que personne qui peut être touchée par cette chaleur-là, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a trop chaud? En présence de symptômes, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, voilà. Il est recommandé de téléphoner à Info Santé si, par exemple, on se rend compte qu'on a beaucoup de maux de tête, des crampes musculaires, des enflures des mains, des pieds, des chevilles. Des fois, on va voir apparition de petits boutons rouges sur la peau. On appelle ça des boutons de chaleur.
Oui.
Une fatigue inhabituelle, un épuisement, des malaises généralisés. La respiration pourrait être atteinte. D'autres éléments importants aussi, des vrais signes de déshydratation, là, c'est la bouche sèche et la salive collante, une sensation de soif intense. Et aussi, on a de la misère à uriner. On va plus, les mictions sont moins fréquentes. L'urine a une couleur très foncée ou il n'y a pas d'urine du tout. S'il n'y a pas d'urine du tout, là, appelez 811 tout de suite et expliquez votre situation.
C'est le numéro d'Info Santé, ça, 811.
C'est ça.
Est-ce qu'il peut y avoir de la fièvre?
Aussi, pardon?
Est-ce qu'il peut y avoir de la fièvre?
Oui. Alors, en plus de ces symptômes, évidemment, s'il y a présence de fièvre, là, on peut penser à un coup de chaleur. Là, on appelle 911 à ce moment-là. Là, s'il y a une fièvre importante avec des frissons, parce que c'est souvent accompagné de frissons, 911, là, c'est très, très urgent.
Oui. Oui, oui.
Alors voilà, au niveau des petits dangers.
Oui, puis attention.
Une autre formule pour se réhydrater, c'est un mélange d'eau, jus d'orange, puis un peu de sel. Si on sent qu'on est vraiment déshydraté, ça va aider à se réhydrater.
Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ces boissons en ce moment qui se vendent, hein, que l'on trouve sur le marché depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant.
Ça équilibre les électrolytes, si je ne me trompe pas.
Et voilà, mon Dieu, on est bien renseignés.
Est-ce qu'il y a des sites pour les gens qui nous écoutent, pour aller en cas d'urgence?
En cas d'urgence, si vous vous questionnez, il y a le 811, mais si vous avez des contacts avec votre CLSC, communiquez avec le CLSC.
D'accord.
Il y a aussi les villes et les municipalités qui offrent différents types de services, particulièrement dans les temps de canicule. Alors, c'est important d'aller vérifier ce qui est possible. Je sais que les piscines, entre autres, les gens qui vont dans les piscines sont ouverts de plus longues heures durant les périodes de canicule et c'est gratuit. Alors, il faut vérifier là avec sa municipalité ou sa ville. D'autres ressources communautaires, si vous voulez en savoir plus, on va les déposer puis sur le site parce que je peux peut-être rapidement dire www.santé.gouv.qc.ca. Alors, c'est le site du ministère. On peut aller chercher toutes les informations qui concernent la canicule. D'ailleurs, c'est à ce site que je me suis ressourcée moi-même.
Ah, ben merci beaucoup, France. Une toute petite précision. Santé, évidemment, sans accent. Vous les écrivez santé, comme toujours, on le sait maintenant. Mais il y a encore des gens à qui il faut le répéter peut-être. Alors, santé.gouv.qc.ca. France Remède, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Mais pour moi, de même.
Passez une belle journée.
Merci, aussi, France. Là.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai pris une claque et un taxi la première fois que tu m'as plu. J'étais arrivée dans ta vie et j'en suis toujours pas revenue. Mais fallait bien que ça se complique. Alors tu m'as fait ça aux 12 coups de l'horloge biologique. J'ai eu l'envie d'un enfant de moi. T'es fière de toi? Babi, 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 boum. Il manquait juste une occasion. Babi, 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 boum. C'est l'occasion qui fait l'ardon. Et c'est parti que du bonheur, de prise de tête en prise de poids. Toi tu t'emballes sur mes rondeurs, de crise de nerfs en crise de faim. On somatise à tour de rôle, un peu beaucoup passionnément. Nous deux c'est rock'n'roll. On pose les yettes, c'est décapant. Mais quel talent, baby, 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 boum. Qu'on a l'air con, c'est trop mignon. Baby, 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 boum, c'est l'occasion qui fait l'ardon. Dans les familles, ça devient sauvage, c'est un peu le choc des titans. Il y a les mamans qui causent mariage, ça donne envie de faire des parents. Et c'est la guéguerre au prénom, la lutte à mort et sans retour. On dira rien de toute façon. Pour l'instant, on l'appelle au secours, amour toujours. Baby, 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 boum. Un plomb, c'est ça qui est bon. Baby, 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 boum. C'est l'occasion qui fait l'ardon. Faut rester zen et philosophe. Tout se passera bien, faut pas stresser. De toute façon, la catastrophe, c'est le baby blues qui est juste après. Mais comme y a toujours une copine qui a une cousine qui s'y connaît, parce qu'elle même a une voisine pour qui ça s'est très mal passé. Babi, babi, boum, d'un aide d'enfer et damnation. Babi, 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 boum, c'est l'occasion qui fait l'ardon. Et puis au bout de 9 mois ferme, voilà le grand jeu du grand jour. Et c'est parti pour le grand chelem, et c'est parti pour le grand amour. Fois mieux quand on est trois, pour le meilleur et pour de rire. Jamais plus jamais de sans toi, dis, on remet ça. Baby, 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 boum, ça c'est de la super production. Baby, 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 boum, c'est l'occasion qui fait l'ardon. Baby, 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 boum, tu m'as dit oui, j'ai pas dit non. Baby, 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 boum, c'est l'occasion.
Et on vient d'entendre Agnès Bill et sa pièce Baby Boom, Baby Boom.
Et c'est l'occasion qui fait lardon, vous avez remarqué. Le lardon étant un des nombreux mots pour dire un gosse, un enfant, j'ai bien précisé.
C'est-tu vrai?
Un gosse, ben oui.
J'étais pas chère, je ne savais
dit,
même pas.
Non, 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 c'est ça. Et il y a une expression française qui dit c'est l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire c'est l'occasion qui fait le voleur. S'il y a quelque chose là, ben, le larron va tendre la main pour aller voler. Et elle, la chanson, elle dit c'est l'occasion qui fait le lardon.
Toutes les occasions seront bonnes de faire les enfants.
C'est ça.
Oh boy!
Ouais. Oh là, c'est ça!
Hey, je vous laisse, bye! Benoît Rassette en studio pour parler politique, parler société. Allô,
ben oui, bonjour, bonjour.
Dans ce baby boom, on dirait qu'on est... parce qu'on est très thématique aujourd'hui, hein,
toujours.
L'été. Et là, on va parler... d'enfants, on va parler de famille
en politique. De
famille
davantage, précisément. En fait, aujourd'hui, on fait popper les familles et la politique ou la science politique. Et j'avais envie d'abord de définir la famille, pourquoi pas.
Ah, vas-y.
Est-ce que c'est une gang de lardons qu'on ferait frire? Eh mon Dieu, ça se dit pas ça!
Moi, hey, je vous quitte! Bonne journée!
moi, j'ai un enfant, elle est magnifique, jamais je l'associerais à un lardon. Bon, OK. Mais la famille, c'est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté qui existent dans toutes les sociétés humaines, disait Claude Lévi-Strauss. Mais on dirait qu'en politique, c'est une occasion un peu de gagner une élection. Quelque chose comme ça.
Parce que ce que tu as remarqué au fil du temps,
oui,
dans le domaine politique, c'est que les familles, mm-hmm, étaient une cible
extrêmement importantes, même s'ils ne sont pas majoritaires.
Exactement, parce que seulement à peu près le tiers de la société où il y a
des gens qui sont dans les familles actuellement.
Et donc, le 66% serait identifié, c'est spécial. Mais entre autres, je me référais à un texte que l'IRIS a proposé en décembre dernier qui explique comment la CAQ a un peu cherche à consolider son vote, là, son bloc électoral. Et la CAQ souhaite parler aux familles parce que c'est très payant. En fait, au lieu de dire qu'elle coupe, par exemple, dans l'État, dans les programmes sociaux, elle a juste à ramener, pour être proche de sa politique, l'idée qu'on coupe le fardeau fiscal des familles. Donc, on donne plus d'argent aux familles. Puis aussi, il y a une partie des gens qui aiment la CAQ, par exemple, ou disons les conservateurs, qui trouvent que dans la famille, on entend l'ordre, la tradition, etc. Mais en même temps, c'est très porteur parce que c'est sûr que c'est pour le bienfait de la société. Travailler pour les familles, c'est automatiquement travailler du bon côté des choses.
Mais c'est ce que je me demandais. Pourquoi c'est comme le Graal des politiciens? Qu'est-ce qu'il y a dans ces familles-là?
Ben voilà, c'est que dans le discours, c'est qu'on fait automatiquement le bien, puis on séduit autant, je dirais, les plus progressistes ou les gens qui croient, par exemple, aux programmes sociaux, que les gens qui sont plus conservateurs, qui pensent que tout devrait être fait au sein de la famille. C'est payant pour plein de monde en même temps.
Mais est-ce que c'est les familles qui votent? Est-ce que les familles votent plus?
Ben non, justement. C'est pas exactement ça. Non, les familles ne votent pas plus. En fait, les femmes votent un peu plus que les hommes. Commençons par ça. À quelques points de pourcentage, là, de 2 à 5 % tout dépendant des paliers. Et elles ont une extraordinaire assiduité au vote depuis qu'elles ont le droit. Hein, faut le rappeler parce qu'elles n'ont pas toujours eu le droit. Mais
ça fait pas longtemps d'ailleurs, c'était avant-hier quasiment.
Le petit jour avant.
La nuit
tombée. Mais on remarque que la présence d'enfants est négativement associée au vote. Donc, en général, quand il y a des enfants dans une famille,
on
surtout
pas le temps.
Les familles n'ont. Oui.
Exactement.
Exactement, on a peu de temps. Souvent, les familles monoparentales, avec une femme comme chef monoparental, évidemment, votent moins, peut-être qu'ils ont moins le temps, puis c'est aussi associé un peu à la pauvreté. Enfin, bref, c'est pas exactement pour les votes. Il faut que les gens se sentent inclus dans la famille. C'est ça qui permet.
Mais tout le monde a une
voter.
Famille. Tout le monde fait partie d'une famille. Tout le monde a été jeune un jour. Donc, tout le monde a un sentiment d'appartenance émotionnelle, mnémonique, de mémoire très, très proche du cœur de la famille. Donc, on touche tout le monde pareil.
La famille, c'est le cœur, exactement.
Mais non, mais
c'est,
on se comprend.
C'est précisément ça. C'est notre enfance, c'est nous, c'est notre identité. Puis même en ce moment, quand on regarde, par exemple, les préoccupations des électeurs, bon, en premier, les taxes, là, les gens trouvent qu'on en paie toujours trop, surtout quand les services sont pas bons. Mais en dessous, il y a les personnes âgées, etc. Puis dans la famille, en ce moment, avant, c'était beaucoup les enfants, mais la famille est de plus en plus associée aux personnes âgées. Mais ça, c'est une autre analyse que je vous proposerai. Parce qu'il y a le vote, mais moi, j'aimerais parler aussi du pouvoir des familles. Mm-hmm. Et il n'y a pas seulement dans l'urne qu'on a du pouvoir, ça a l'air.
Ils sont puissants.
Oui, c'est ça, ils sont puissants. Et depuis longtemps, comme groupe de pression, je vais vous rappeler, là, dans l'avant-dernière année, à tout le monde en parle, il y a Parents jusqu'au bout, par exemple.
Oui, ben oui.
Qui a réussi à interpeller sur le plateau le docteur Barrette. À l'époque, personne n'arrivait à faire fléchir le docteur Barrette, mais ses femmes, Parents jusqu'au bout, ont un peu réussi, en tout cas devant tout le monde. Il y a aussi Parents pour toujours qui est arrivé plus tard. Il y a beaucoup de groupes de parents d'enfants qui ont une déficience intellectuelle, etc., qui se font entendre. Ils ont une bonne résonance, les médias les aiment. Mais dans l'histoire, il y a plein de moments aussi comme ça. Puis, si jamais vous avez le temps, on n'arrivera pas à parler longuement de ça, un petit peu. Il y a un article d'histoire qui est repérable encore sur erudit.org. Vous savez que c'est ma pépinière préférée. En fait, c'est un article qui s'intitule « Quand des parents se constituent en lobby déficience intellectuelle et concurrence Ottawa-Québec à l'époque de l'État-providence 58-85 ».
Quand j'ai lu ça, Benoît, j'avais une question. Auteur Lucia Ferretti, je me suis dit « Benoît, où est-ce qu'il y a manqué de complexité dans ton titre? Tes références sont légères cet été.
Oui,
on est content.
Mais c'est dans l'été. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps d'aborder qui sont précisées dans le titre. Bon, l'État-providence, ça, c'est une chose. Certains disent que c'est dans le passé, mais il y a eu, à partir des années 50... Non, mais il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui qui le questionnent. Et je suis triste de ça, mais soyons clairs. Mais dans les années 50, c'est là où ça émergeait, en fait. Et la concurrence Québec-Ottawa, c'est intéressant parce que tous les groupes en tout cas moi, avec lesquels j'ai travaillé, souvent, il y a des distinctions si on travaille sur le plan québécois ou canadien. Puis là, dans cette histoire-là, des groupes pour la déficience intellectuelle, il y a eu, en tout cas, des questions sur les compétences selon la promesse, tout ça. Mais ça, c'est pas de cet aspect-là, de cette recherche-là que je veux parler. Les gens pourront s'abreuver à la recherche pour en savoir plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce mouvement des parents d'enfants qui ont une déficience intellectuelle, on comprend l'histoire des groupes de pression des parents. C'est vraiment le fun pour ça. Donc, autant dans les années 50, tout le monde est institutionnalisé. Mm-hmm. C'était les premiers combats d'essayer de reconnaître des droits aux personnes, éventuellement les faire sortir des institutions. Mais aussi, c'est de passer d'une certaine manière de pression discrète. Donc, on rencontrait les bonnes personnes dans le gouvernement à des pressions revendicatrices, là, vraiment les années 70, 80, où les groupes prenaient la rue. Encore aujourd'hui, ils le font, mais je veux dire de manière plus saillante. Jusqu'à aujourd'hui, et là, c'est pas compris dans l'étude dont je vous parle, où on emprunte les moyens juridiques. Ce que je veux dire, c'est que tous ces moyens-là peuvent être déployés par des groupes de pression dans la société, mais les parents, ça marche plus fort. Parce qu'en plus, les médias aiment les parents.
Il y a un appui supplémentaire.
Il y a un appui supplémentaire. Et bon, puis même, là, je parle de storytelling, pratiquement, là, qui est une science de raconter des histoires. Là, mais tu sais, c'est parce qu'il y a la mère, souvent, il y a les enfants, il y a la famille qui appuie la communauté, mais même éventuellement les gens, l'infirmière, tu sais, des figures fortes comme ça qui interviennent dans les parents, puis surtout les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Enfin bref, c'est plus payant médiatiquement d'être de ces groupes-là aujourd'hui. Et c'est triste aussi, hein, parce que...
Ben oui.
Il y a des groupes de personnes en situation de handicap qui aimeraient bien avoir autant d'attention que les parents d'enfants handicapés, par exemple, puis qui n'y arrivent pas parce que c'est moins sexy, autant en période électorale qu'avant.
Mais si vous dites, Benoît, 33 % c'est ça, à peu près 33,33. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a
66 %
de gens qui... Les politiciens, c'est ça, qui sont
c'est
tout
ça.
Seuls et ça n'a pas de pouvoir.
Ben,
c'est moins séduisant.
C'est
moins
une autre séduisant. Manière de,
c'est très judéo-chrétien, tout ça encore.
Et voilà.
Ouais. Ben, je veux dire, c'est là qu'on en revient. Hein. La famille, d'ailleurs. On parlait tantôt de faire des enfants, mais on rappelle qu'au départ, c'est ça.
Oui.
C'est fonder famille.
Oui. Mais même chez les protestants, ceci dit, c'est important la famille. Sauf que chez les protestants, la famille était beaucoup plus associée peut-être au travail avec la communauté aussi.
Mais il faut s'entendre qu'en tant que société, par contre, l'argent de nos impôts, ce qui nous est demandé en tant que citoyens moyens, c'est d'investir dans beaucoup de choses qui touchent les familles, que ce soit les écoles, par exemple.
Bon,
l'éducation est un sujet qui touche... tout le monde.
Absolument.
Je veux dire,
sur le plan local, parler des écoles,
ça a des ramifications infinies, on dirait. Donc, on se rappelle qu'être parent, c'est aussi avoir énormément de pouvoir sur les gens de pouvoir, ce qui est un peu paradoxal, mais en même temps,
c'est comme ça.
Assez intéressant.
C'est comme ça.
Merci, Benoît Racette.
Ça m'a fait plaisir de popper.
Les correspondances d'Eastman, c'est une joie totale que ces correspondances, et je voudrais vous rappeler que la programmation, ça va commencer le jeudi 9 août prochain, avez-vous remarqué, on commence déjà à parler du mois d'août, Dieu que ça va vite, avec des gens fantastiques comme David Goudreau, qui va faire de l'humour debout et de la poésie drette, c'est le titre de son spectacle. Et il va y avoir Stéphanie Boulet qui est invitée cette année pour nous parler de littérature en chanson, il va y avoir le Café littéraire, il va y avoir un spectacle de Catherine Major, il va y avoir un brunch littéraire si vous voulez aller bruncher en compagnie de Kim Thuy. Il y a quand même des brunchs qui sont plus agréables que d'autres.
Et rapidement, et on en a parlé en début d'émission, je vous annonce en primeur que le Canada rend interdit le testage sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. La compagnie Lush et le Body Shop on fait partie des gens qui ont fait des changements. La date à laquelle le projet deviendra une loi officielle reste à venir, mais ça s'en vient. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Vous écoutez Aime l'été.
comme on aime l'été, eh bien, on va aller au cinéma, on va aller au musée et au Festival Fantasia avec Maxime Despomerleau dans quelques secondes. Et comme on aime l'été, eh bien, on trouve des lieux accessibles à tous à Montréal et on aime trouver des nouvelles façons de vivre en ville ensemble. C'est le cas notamment de l'aire commune.
Je vais au cinéma, Arnaud Florent Didier sur les ondes de Canal M.
Et nous aussi, on va aller au cinéma, mais un petit peu plus tard avec Maxime Despomerleau. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Alors, Maxime, Picasso, vu par les femmes au MBAM, vous avez
oui.
vu ça?
Ben, pas encore, en fait, parce que je parle d'événements qui s'en viennent. Donc, je vais être un peu dans la même situation que vous. Je vais devoir attendre que ça se produise.
Alors, je vais faire une marche arrière et je vais répéter ma question et vous n'avez rien entendu, d'accord? Il semblerait qu'à Montréal, bientôt, au MBRM, il va y avoir Picasso vu par les femmes. Vous allez y aller, Maxime?
Oui,
bonne nouvelle, personne ne l'a manqué,
justement. Je vais vous en parler, je vais vous en donner quelques mots. En fait, jusqu'au 16 septembre, le Musée des beaux-arts de Montréal présente l'exposition « D'Afrique aux Amériques, oui. Picasso en face à face, d'hier à aujourd'hui ». L'exposition de Picasso comme telle est déjà en cours et a lieu jusqu'à la mi-septembre. Par contre, mm-hmm. ce qui est intéressant, ce que j'ai relevé pour nous, c'est en fait des activités à côté de l'exposition qui se passe avec le collectif The Woman Power. Le musée invite le public à réfléchir sur la représentation féminine dans le cadre de l'exposition. Alors, l'exposition, évidemment, veut une réflexion aussi sur notre rapport entre l'Afrique et l'Occident mm-hmm. dans les arts visuels. Les questions d'appropriation culturelle, de colonisation, de décolonisation sont également très présentes. Et je vais vous donner je vais vous décrire un peu, en fait, ce collectif The Woman Power. Okay. C'est une sous-division de la compagnie de production culturelle Never Was Average, fondée en 2017. C'est montréalais. Et mm-hmm. à travers des activités de production participative, des plateformes numériques et l'animation de discussions, The Woman Power valorise une représentation positive du genre féminin dans l'espace culturel et l'espace public. Et pour l'exposition Picasso, mm-hmm. en fait, The Woman Power organise deux choses. La première, c'est en fait une installation participative okay. inspirée de l'œuvre phare vraiment de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon.
Oui, bien sûr.
Donc, qui a marqué en fait même l'histoire de la modernité mm-hmm. et qui a redéfini les standards de beauté dans la mise en scène et les concepts d'espace dans les arts. Alors, en s'inspirant du tableau, il y a des photographes québécoises et des membres de Woman Power qui ont créé une installation pour se réapproprier l'œuvre avec un point de vue 100% féminin. Donc, vraiment, la démarche vise à engager un dialogue sur toute la notion de représentation en art et le rôle de l'artiste, les notions de fétichisme et d'exotisme également. Et alors, c'est une mosaïque participative qui est installée dans l'espace éducatif du Musée des Beaux-Arts. Et en complément mm-hmm. à cette installation, The Woman Power propose des discussions animées qui s'appellent Sisterhood. Elle présente ça une fois par mois dans différents contextes. Et au Musée des Beaux-Arts, c'est en lien avec l'exposition qui est en cours. Alors, la première, c'est demain, le 18 juillet. Et il y en a une autre le 15 août. Alors, on y va quand même dans un sujet assez large de representation of women, mais également la chevelure et l'identité.
Huh.
Oui, alors la chevelure qui est une caractéristique physique, mais identitaire, importante.
Absolument.
Pour les femmes.
Ah oui.
Notamment de culture afro-américaine ou afro-canadienne oui. dans ce cas-ci. Donc, c'est quelque chose qui va être exploré. Alors, on va prendre vraiment des œuvres en particulier comme point de départ à la discussion. Moi, c'était un angle que je trouve qui est intéressant à aborder et j'avais envie de vous le soumettre.
Merci beaucoup, Maxime. Le Fantasia Festival, je pense que vous avez un film qui touche le handicap que vous voulez nous suggérer, Maxime.
Oui, tout à fait. Le Festival international de films Fantasia, qui est à sa 22e édition, qui commençait le 12 juillet et se poursuit jusqu'au 2 août à Montréal. Pour ceux qui connaissent moins le festival, c'est vraiment une des plus grandes manifestations de cinéma de genre au monde. Alors, plusieurs genres spécialisés, notamment dans l'horreur, la science-fiction, des films d'arts martiaux, des films expérimentaux, etc. Et j'ai relevé une première internationale donc, qui aura lieu durant le festival. La première est le 18 juillet. Il y a aussi une seconde représentation le 24 juillet.
Donc, c'est demain.
Donc,
là.
C'est ça, demain. Hein?
Oui, demain. Ah,
oui.
Je suis d'actualité. Alors, le film s'appelle Chained for Life. C'est du réalisateur Aaron Schimberg. Je vous dis le petit synopsis. Alors, une actrice coquette et un acteur défiguré peinent à se comprendre sur le plateau d'un film d'horreur aux prétentions artistiques. Donc, la demoiselle tient le rôle d'une femme aveugle et le film qu'elle tourne, déjà soupçonné par les médias d'être de mauvais goût, traite explicitement de difformité. L'équipe de tournage marche sur des œufs, sur la rectitude politique. D'étranges rumeurs commencent à circuler sur l'hôpital abandonné qui prête son décor au film. Donc, c'est une comédie noire, en fait.
C'est particulier.
Oui, ben.
C'est comme un rêve dans un rêve, c'est un film dans un film, c'est indirect,
exactement,
c'est audacieux.
Oui.
Fait
qu'on peut aller chercher des choses assez méta, mm-hmm. puis c'est l'occasion vraiment pour le réalisateur de déconstruire un peu les notions de différence qui sont habituellement véhiculées dans le cinéma commercial. Mm-hmm. Et il offre une exploration, même une réfutation de la dynamique de freak show.
Oui.
Qui accompagne beaucoup les films portant sur le handicap. Et c'est avec Jess Weitzler et Adam Pearson, qui est un acteur anglais de 30 ans ayant la neurofibromatose,
okay.
qui cause des tumeurs bénignes sur les tissus nerveux et qui engendre des déformations importantes. Et dans son cas, c'est au visage. Mm. Donc, Adam Pearson, on l'a découvert dans le film Under the Skin en 2013, aux côtés de Scarlett Johansson.
Oui.
Alors, il est de retour et vraiment, c'est un film qui est attendu et que je trouve qui est intéressant de se questionner sur la vertu artistique, mais également l'exploitation qu'il peut y avoir autour des thèmes du handicap dans le cinéma.
Oui, et très rarement d'ailleurs montré, vu. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui pensent toujours que le Festival Fantasia, justement, c'est que ça n'est que du gore et que ça n'est que ça, alors que non, il y a aussi des films qui font réfléchir, la preuve, quoi.
Oui,
rappelez-nous le titre du film?
Chained for Life. Donc, ce sont toutes des présentations originales. Alors, c'est dans la langue anglaise puisque c'est un film américain.
Parfait. Ça va bouger dans le quartier Oma?
Oui, tout à fait. Dans Schlager Maisonneuve,
ouais.
C'est le début ce soir de ZH Festival. C'est la 10e année que le festival est en place. Les autres années, on le connaissait sous le nom de Zone Oma. Et ce soir, donc, c'est la première. C'est le spectacle ouvre avec le spectacle Umanishish de la mise en scène de Xavier Huard. Umanishish, qui signifie fœtus d'orignal. Donc, on va du côté, cette fois-ci, des arts autochtones avec l'interprète Soleil Launière, qui est Inou de Mastoyatch, interprète en jeu, danse et chant, et Gonzalo Soldi, concepteur vidéo et d'éclairage, qui est originaire de Lima, au Pérou. Il propose une expérience immersive qui emploie le corps, la voix, l'espace scénique et les thèmes abordés, surtout autour de la dualité, du dédoublement des êtres, notre rapport au Nitassinan, le territoire ancestral du peuple Inou, qui est situé dans l'Est du Canada et au Québec et au Labrador. Et bon, c'est en fait vraiment des sujets d'actualité. Notre rapport d'humain avec la Terre, qui est tendu hein, en ce moment.
Mm-hmm.
Et on parle de destruction, de guérison, de colère, de pardon. Alors, c'est ce soir avec ce spectacle que le festival ouvre sa 10e année.
Et il nous reste une toute petite minute,
oui.
Maxime, et on vous avait annoncé avec la chanson « Je vais au cinéma ». Alors, il faut à tout prix que vous nous ameniez au cinéma.
Bien sûr,
ne serait-ce encore. Que, vous savez pourquoi, pour la fraîcheur, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt à l'émission avec France Remette, ça peut être aussi un excellent moyen quand on n'a pas la clim à la maison, si bien sûr vous êtes en mesure de vous déplacer, mais le cinéma c'est un moyen pendant 2 heures de prendre le frais aussi.
Absolument. Et cette fois-ci, bon, Fantasia, ça se passe en salle, mais il y a les cinémas urbains à Place de la Paix, notamment, qui est dans le centre-ville de Montréal, sur la rue, le boulevard Saint-Laurent, entre René Lévesque et Sainte-Catherine, adjacent à la Société des arts technologiques. Jusqu'au 4 septembre, ils proposent une programmation gratuite de films à l'extérieur.
À l'extérieur. Raté pour la clim, mais bon.
On a quand même le Festival Fantasia qui est à l'intérieur.
Il y a des plantes, on est quand même bien. Et je vais revenir un peu souvent dans l'été avec ces différentes programmations de festivals extérieurs qui sont gratuits. Alors, en termes du cinéma urbain, c'est tous les mardis à partir de 21h, au moment où le soleil se couche. Mm-hmm. Et ce soir, il y a Dune de David Lynch,
oui.
qui est proposé. Mardi prochain, ce sont Les Affamés de Robin Aubert, gagnant du prix Iris du meilleur film au dernier gala du cinéma québécois. Le 31 juillet, La part du diable, le film de Luc Bourdon, qui pose un regard sur la Révolution tranquille avec un collage d'extraits de plus de 200 films tirés des voûtes de l'ONF, l'Office national du film. Et évidemment, plusieurs classiques dans la programmation à venir. Le Grand Bleu de Luc Besson, Do the Right Thing de Spike Lee, The Last Waltz de Martin Scorsese. Donc, c'est tous les mardis, 21h, gratuit, Place de la Paix dans le centre-ville de Montréal.
C'est parfait. Merci beaucoup, Maxime. Passez une belle fin de journée et faites attention à la chaleur. Là. Protégez-vous aussi.
Tout à fait. Oui, vous aussi.
Salut.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Un Big Mac extra sauce, c'est dangereux. Une brésilienne, si elle est fausse, c'est dangereux. Trop de beurre sur ton pain, c'est pas bien du tout. Les choux de Bruxelles au vacherin, là, t'as vraiment pas de goût. Si elle est trop jeune et que t'es trop vieux, c'est pas permis. Le gras du jambon dans le jambon, pas permis. Les yeux de la couenne dans le bouillon, c'est pas bien du tout. Manger la peau du saumon, là, faut vraiment être fou. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Le saucisson, la tartiflette, le camembert, le rouge, le blanc, la bière. Enfoncer son doigt dans un pudding, tremper deux fois ton brocoli dans la trempette, faire l'amour en gardant tes chaussettes. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Faire un finger, un taxi, les doigts dans le nez, dans le clafoutis. Lui dire au revoir dès que t'as joui, casser la gueule à tous les plus petits. Regarder les fesses de la blonde de ton meilleur ami. Un bain de soleil avec pas de burkini. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Passer les loulous sur la plage, regarder passer les moules aussi d'ailleurs. Faire de la moto sans son casque, faire du porno sans mettre un masque. Péter au lit dans le lit de la meilleure amie de ta petite amie. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit.
Terre commune, c'est un espace à Montréal qui se situe dans le Mylène à l'angle des rues de Gaspé et Bernard. C'est 2500 personnes qui se sont présentées à son ouverture le 17 mai dernier. On discute de cette initiative pour repenser la ville qui est au cœur de sa deuxième saison cet été avec Marie-Pierre Tessier de l'Étoile, directrice générale de l'OSBL ILO 84, producteur d'Air commune. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Merci d'être parmi nous et de nous parler de cette initiative absolument incroyable. Mais tout d'abord, l'ILO 84, c'est quoi?
Alors, ILO 84, c'est tout simplement un OBNL. On agit par l'événementiel surtout, mais par la création d'espaces aussi. Puis notre objectif, c'est de revitaliser des espaces urbains via des projets donc culturels, professionnels, sociaux, comme ça.
Dont l'air commune.
Dont l'air commune, oui, qui est vraiment le projet, disons, majeur de l'organisme. Là, c'est vraiment... C'est notre carte de visite.
Qui est née de quelle volonté, alors, comme vous l'a déjà demandé, Emmanuel?
Mais c'est quoi le constat d'ILO 84 pour mettre à jour ça?
Bien, en fait, le constat était assez simple. Le Mylène, c'est un quartier qu'on fréquentait beaucoup. Nous, je parle au 11, c'est l'équipe d'ILO 84. Uh-huh. On est 6 cofondateurs. Puis, on est issus du milieu événementiel. On était des travailleurs autonomes qui... travailler avec plusieurs clients et avec plusieurs partenaires. Puis on était toujours rendus dans le Mylène parce que force est de constater que tout le monde dans notre industrie, en tout cas, était là. Puis le constat, c'était il manque d'espace commun, d'espace partagé. Il y a des milliers de travailleurs, il y a des citoyens, il y a vraiment toutes sortes de personnes qui fréquentent ce quartier-là. Il y a une effervescence vraiment, vraiment présente. Et puis, ces gens-là ne se voient pas. Les gens travaillent soit de la maison ou dans leur bureau, mais ne se côtoient pas.
Il n'y a pas d'esprit de quartier.
Ben, il y a un esprit de quartier, je pense, puisque c'est un quartier quand même qui a des citoyens qui sont très, très investis depuis longtemps. Mais,
Pas de rencontres.
Non, il n'y avait pas beaucoup de lieux de rencontres.
C'est ça.
Et c'est un quartier particulier qui a son héritage... Donc, d'espace, des vestiges de la gare. Il y a beaucoup d'espaces un peu vagues, pas vraiment utilisés, pas très précis quant à leur vocation. Puis, il y avait cet espace que nous, on a vu qui est entre Bernard et Saint-Viateur sur De Gaspé, qui est vraiment aux abords du Champ des possibles, en plus, qui est une espèce d'oasis de biodiversité, de végétation vraiment appréciée par les gens du quartier, mais qui ne pouvait pas... s'y asseoir, c'est un grand espace vague, puis on voyait des gens luncher ou faire des rencontres assis sur des blocs de béton ou assis carrément juste sur le trottoir parce que les gens avaient envie d'être dehors, mais il n'y avait rien qui s'y prêtait. Donc, on a décidé d'imaginer ce lieu où les gens peuvent venir à la fois travailler, luncher, se détendre.
Alors, avec l'accord de la ville aussi, parce que j'imagine que la ville de Montréal avait son mot à dire. Alors, vous l'avez réellement aménagé, ça veut dire fini les blocs de ciment, fini la mauvaise herbe, tout est installé comme une immense terrasse. Est-ce que c'est bien ça?
Exactement. C'est qu'on a présenté le projet à l'arrondissement parce que c'est l'espace public qu'on utilise. C'est un terrain qui appartient à la ville. Puis eux ont tout de suite accroché sur le côté innovateur, rassembleur du projet, puis nous ont vraiment accompagnés. On le fait main dans la main avec l'arrondissement pour que ça corresponde, que ça s'intègre bien dans son contexte, que ça corresponde aux besoins du quartier puis à l'esprit du quartier. Et donc, oui, on a pris ce grand terrain vague qui est un peu un terrain de gravier. Puis on a installé une terrasse, des conteneurs qu'on a aménagés en salle de réunion. Comme ça, les gens peuvent venir carrément faire une réunion d'équipe dehors.
Okay. Gratuitement, en plus.
Gratuitement, oui. Tout l'usage, la programmation
est
gratuite.
Il n'y a pas de location de locaux.
Est-ce qu'il y a un bar? Est-ce qu'on peut se rafraîchir?
On a installé un service de bar, de café, une offre alimentaire aussi, avec tous des partenaires locaux pour avoir le plus de produits locaux possible. Il y a une terrasse sur le dessus d'un conteneur sur laquelle on a une super vue du Myland et de son Golden Hour légendaire.
Juste pour le repos à ce moment-là? Est-ce que ça peut être juste un endroit où quelqu'un peut arriver et avoir envie de lire tranquillement parce qu'il n'a pas de balcon? Ça peut être ça aussi.
Ça peut être ça aussi. Il y a des hamacs, il y a des beanbags. Les gens... Vraiment, une journée à Air commune, on voit toutes sortes de personnes passer, des gens qui viennent se détendre, lire, faire une sieste même, et des gens qui sont en plein session de travail.
C'est ouvert 24 heures sur 24?
C'est ouvert. En fait, nous, nos services, donc ce qui est du bar, café, tout ça, on est ouvert de 9h à 21h du lundi au mardi.
C'est beaucoup.
9h à 22h le mercredi, puis jusqu'à 23h les jeudis et vendredis.
Okay.
Mais l'espace, les gens peuvent venir s'installer aux tables à n'importe quel moment. Là, l'espace n'est jamais clôturé et fermé.
Quel est le profil des gens qui profitent de cette place-là, Air commune?
Bien, c'est extrêmement varié. Oui. Donc, on a des gens de toutes les générations, puis beaucoup de gens, évidemment, du quartier, mais d'ailleurs de
toutes
Montréal
les générations?
Aussi. Oui.
Vous avez... Bon.
Mais c'est sûr que... La grande majorité des gens qui fréquentent, bien, c'est beaucoup les travailleurs du quartier parce que c'est un pôle assez spécifique dans le Myland où il y a à chaque jour 12 000 travailleurs qui viennent travailler. Beaucoup d'agences de communication, création de jeux vidéo. On sait qu'Ubisoft a fait une grosse, vraiment comme créer un hub dans ce quartier-là. Donc, on a évidemment beaucoup de travailleurs de 25 à 40 ans. Je dirais que ça, c'est vraiment la majorité de ce qu'on voit. Mais c'est un espace qui est très polyvalent, qui est très ouvert. Donc, il y a des garderies qui passent par là. Les enfants viennent s'amuser dans nos installations.
Et c'est accessible.
C'est accessible.
Et ça, pour nous, c'était essentiel. On n'aurait pas pu parler aussi librement et ouvertement de ce lieu-là. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite, donc qui sont en voiture, en voiture, etc. C'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Et quand vous parlez de votre équipe, vous n'êtes pas sur place tout le temps. Est-ce que vous accompagnez? C'est vous-même qui, par exemple, il va y avoir des conférences hein, qui, se donne dans, oui, dans ce lieu-là. C'est vous qui les montez? C'est vous qui vous organisez? Ou est-ce que ce sont les gens qui s'organisent et qui vous disent, ouais, voilà, simplement, à tel moment, tel jour, on prendra telle place, tel lieu, tel conteneur?
En fait, c'est un heureux mélange. C'est une programmation, okay, assez hybride où nous, on est une équipe de programmation. On est une équipe de, okay, 9 organisateurs permanents. Dans cette équipe de 9, donc, il y a des gens à la programmation. Donc, il y a des choses, des concepts que nous, on a développés, qu'on voulait aller faire, des conférences Lunch and Learn, qu'on avait envie, qu'on se disait, il y a un besoin pour ça. Puis, donc, à ce moment-là, c'est nous qui faisons des approches et montons une programmation. D'accord. Puis, on a aussi beaucoup de gens qui nous approchent pour faire leur événement dans nos espaces. Puis, à ce moment-là, on le fait donc en partenariat. C'est sûr qu'on va toujours faire... des événements qui font du sens avec notre
par exemple, de notre par exemple, est-ce que vous en avez un en tête en ce moment?
Par exemple, on a beaucoup d'entreprises du quartier qui nous disent « on fait toujours un barbecue avec nos employés l'été. Là, c'est notre 5e anniversaire.
On le fait chez vous. On vous choisit.
C'est ça, on a le goût de le faire chez vous puis d'inviter nos partenaires. Puis à ce moment-là... Ça nous fait
et c'est gratuit. Plaisir.
Mais c'est des salles de réunion, c'est deux terrasses pergolas pour les 4 spectacles surprises qui auront lieu cet été. Mm-hmm. Il y a des lunch and learn, donc comme on a parlé, vous avez un toit vert en collaboration avec Toit Vertige, ouais, le traiteur Madame Virgule est là. Vous avez même la brasserie Helm qui a fait une bière spéciale, la bière commune, qui va être disponible dans tous les dépanneurs du plateau Mont-Royal et également à Air Commune. Lululemon et Spaces ont travaillé avec vous également parce qu'il y a des cours de yoga, oui, et des ateliers qui vont être donnés en plus de jeux de poche. C'est ludique, c'est formateur, il y a toutes sortes de choses et c'est ouvert jusqu'au 21 septembre cette année. Si on veut en savoir plus, on se rend sur le aircommune.com et à venir 4 autres aires ouvertes, aires communes bientôt.
Oui, on regarde d'autres quartiers pour en faire ailleurs.
Oui, et d'autres villes.
Et d'autres villes.
Et d'autres villes, c'est vrai? Vous allez vraiment mettre ça sur pied?
On est en développement.
Là-dessus. On vous aime.
On vous appuie.
Merci beaucoup.
Merci à Marie-Pierre Tessier de l'Étoile d'être venue nous parler d'Air commune. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci, salut.
On a parlé de chaleur aujourd'hui, on a parlé du soleil, on va se mettre de la crème solaire, mais pas n'importe laquelle. Et j'en profite pour vous parler d'Hawaiian Airlines, qui a donné de la crème solaire non toxique et gratuite aux touristes afin de préserver le récif de corail à Hawaï. C'est une initiative qui a pris naissance après une étude publiée qui disait que la crème solaire, c'était pas bon. Je trouve ça magnifique.
Salut.
Bye.